pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bienvenue au village de l'eau, Nabassaran.
Pendant ce village de l'eau, nous allons essayer de créer des solidarités. Il est important plus que jamais de nous mettre en réseau, de nous parler, de créer des liens entre nous. Et les conférences, tables rondes, formations vont être l'occasion de partager nos expériences, de nous mettre en lien et d'essayer de créer un réseau fort pour lutter contre l'accaparement de l'eau. Nabassaran et soyons unis.
Nous refusons de voir la nature et nos terres comme support d'une idéologie réactionnaire. Nous souhaitons entretenir avec le vivant des relations de cohabitation et d'attention dans des milieux partagés, à l'opposé d'une position d'extériorité et d'une vision de la nature comme patrimoine. D'être en contre-violence face à la violence que pèse l'écofascisme et le fascisme tout court.
Les luttes écologistes sont par essence anticapitalistes et antifascistes, et pas seulement. On en parle aujourd'hui avec vos invités des terres, des naturalistes des terres, rencontrés en juillet 2024 au village de l'eau, dans la jolie vallée de l'Argentière, à Saint-Martin-les-Mels, dans le Poitou. Pendant le village de l'eau, ces naturalistes des terres ont proposé des balades d'observation de la faune et de la flore de la vallée. Faune et flore dont un inventaire a été fait bien en amont de la tenue de l'événement. Recensement du vivant, animal et végétal de la vallée, qui a permis à Bassine Non-Merci de décider d'y installer le village, mais pas n'importe comment. En essayant de minimiser l'impact de la présence de milliers de personnes qui font du bruit, plantent des tentes, ont des besoins naturels, etc. Et limiter cet impact sur le milieu, c'est pas rien. Salut les amis, c'est JBD pour La Voix Off, avec des naturalistes des terres, des terres.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Devant votre espace, là, donc les naturalistes des terres en deux mots, des et plus loin terre, plein d'activités qui sont indiquées déjà sur ce petit panonceau. Donc il y a des chantiers naturalistes, il y a des inventaires, des animations naturalistes, du reméandrage, réduction de la pollution lumineuse, protection de la réserve de biodiversité communale, RBC. Les naturalistes des terres, ça existe depuis quand ça?
On est un jeune collectif qui a bientôt 2 ans.
Qu'est-ce que c'est un ou une naturaliste? C'est un métier, une compétence, un diplôme?
Je pense qu'il y a autant de personnes que de définitions, et c'est un mot qui est parfois clivant, parce que souvent on part d'une posture du sachant sur le monde qui nous entoure. Qu'est-ce qu'un naturaliste? Quand est-ce qu'on devient naturaliste? C'est une question qu'on doit se poser en termes collectivement. Ça bloque parfois les personnes sur se dire « Ah, je suis capable d'aider parce que je connais un peu les papillons, parce que je connais un peu les plantes. » Pour moi, le mot naturaliste, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais à la base, c'est une certaine sensibilité pour le vivant, une partie du vivant, comme tout le vivant.
Est-ce que naturaliste implique diplôme? Validation universitaire?
Pas du tout, non, justement, en termes de collectif, on regroupe pas mal de personnes ultra différentes, en fait. Enfin, il y a des naturalistes professionnels, mais il y a aussi des amateurs, amatrices, des scientifiques, des juristes. Enfin, en fait, c'est vraiment ce truc de plutôt lien sensible, en fait, qui est intéressant, je pense, dans la définition qu'on en donne. C'est très subjectif, en fait, parce que si on va parler de légitimité, il y a des gens que certains ou certaines vont considérer comme naturalistes, qui, eux ou elles, vont se considérer comme amatrices ou amateurs. Enfin, on n'est pas en train de mettre les gens dans des cases. Ça s'ouvre à toutes les personnes qui ont un certain lien avec le vivant.
C'est ouvert justement aussi à des gens, à des artistes, à des gens des sciences humaines et tout, et qui ont aussi qui travaillent à leur manière sur ça. Et justement, en fait, de travailler, de composer ensemble, ça permet un peu d'ouvrir de nouvelles perspectives, qu'elles soient politiques ou même dans la représentation, les récits qu'on fait autour. Enfin, j'ai l'impression qu'on tous on se déplace collectivement en faisant ça avec nos savoirs un peu dispersés, chacun à sa manière. Et c'est vrai que c'est assez ouvert à beaucoup de formes de sensibilité au monde vivant.
Il y a beaucoup de personnes qui sont dites généralistes, qui connaissent un petit peu ou même beaucoup plein de taxons, et d'autres personnes qui sont spécialisées sur un taxon ou plusieurs taxons. Mais voilà, on cohabite justement de cette manière-là. Chaque profil est différent. Et encore une fois, on n'est pas tous naturalistes dans la naturaliste des terres. on n'a pas le savoir absolu sur tout ça.
Et je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi à développer, c'est qu'on est sensible aux espèces vivantes, mais les espèces vivantes, pour être présentes, ça nécessite la présence d'habitat. Et donc il y a aussi cette sensibilité-là à la préservation ou à la recréation d'habitat pour permettre à ces espèces de vivre correctement ou alors de revenir.
J'ai cru entendre le mot juriste aussi dans toutes les compétences qui peut faire une naturaliste. Juriste, scientifique, on en a besoin dans les luttes.
Complètement, bah oui, de toute façon dans les luttes, il y a besoin d'une composition large. Donc les naturalistes pros, seuls, ça serait hyper limité de catégoriser. Et je pense qu'il faut un peu de tout pour que ça soit chouette.
Les naturalistes, déter, déterminé. Est-ce qu'on peut être déter et de droite? Déter, vous l'écrivez déter au pluriel. Politiquement, ça vous situe quand même un peu. Pas trop à droite.
Non, pas trop à droite du tout, même. Au début, l'appel, il a été lancé parce que les naturalistes se retrouvent un peu sur le terrain, un peu isolés, face à un désastre qui sont un peu à compter, collecter et tout. Et du coup, en fait, c'était déjà de pouvoir se regrouper, de se mettre ensemble pour agir collectivement et d'être plus fort. Et de trouver d'autres moyens d'action, en fait, de politiser en fait, la question naturaliste, parce que dans notre société, elle n'est pas du tout politisée, elle est, culturellement, elle est quand même assez peu présente. Du coup, en fait, c'était de la faire rentrer dans le jeu politique. Et donc, il y a deux angles qui sont un peu institutionnels, qui sont déjà en place au niveau juridique, et qu'on utilise, et on vient outiller un peu les luttes avec ça. Parce qu'il y a des juristes qui sont spécialistes de l'environnement, qui sont dans le collectif et qui travaillent spécifiquement sur ça et qui peuvent aider les luttes. Les naturalistes qui peuvent venir sur les luttes et justement voir des espèces qui vont être protégées et qui pourraient mettre un coup d'arrêt à un projet. Et en fait, tous ces outils-là, ils sont très peu suffisants. Et donc là, tout le processus un peu de politisation et de trouver d'autres outils pour rendre visibles ces enjeux, bah, c'est ça un peu le côté déter, c'est-à-dire que ça peut être par de l'action plus directe, ça peut être par plein de moyens qui sont institutionnellement pas accessibles, quoi.
Il y a beaucoup de naturalistes pros ou autres qui constatent en permanence l'effondrement de la biodiversité, et je crois qu'on a épuisé en fait les leviers institutionnels qu'on avait. On les utilise encore parce que ça marche parfois, mais c'est rare quand même et c'est lourd à porter parfois. Et puis on a pas le choix, enfin, je veux dire, quand on a un projet d'aménagement qui menace quelque chose directement, on n'a pas d'autre choix que d'avoir d'autres leviers, et c'est là où le déter, il est intéressant.
On s'est défini des objectifs en tant que naturaliste déter, qui sont notamment justement de développer une nouvelle pratique en milieu professionnel et pour faire face à cette impuissance qu'on a d'être juste témoin de ce qui se passe sur le terrain. Et aussi, l'idée, c'est d'entretenir un réseau de gens qui se connaissent, de naturalistes en lutte, et d'être au plus près des luttes locales et de venir en appui en fait en fonction des besoins des collectifs qui sont déjà en lutte. Ça peut être de la contre-expertise, ça peut aussi être amener une dimension naturaliste à des actions, poser des gestes, de la mise en défense. Par exemple, ça peut être boucher des drains, ça peut être mettre des clous sur des arbres. C'est parfois faire de la sensibilisation auprès des personnes qui sont en lutte, à qui il manque une certaine sensibilité ou qu'il faut développer collectivement.
J'en reviens à cette arme psychologique et à double tranchant du diplôme. Tu parlais, Léo, tout à l'heure d'expertise scientifique. Par exemple, ne faites pas passer cette infrastructure bétonnée ici parce que vous allez massacrer une espèce qui va disparaître si vous le faites. Pour que cette parole ait plus de poids, je suppose que le diplôme est une arme de guerre, pas tant entre nous sur un village de l'eau comme ça, mais vis-à-vis d'autorités, d'institutions. Tu as abordé tout à l'heure notre conversation en disant « ça nous embête d'être les sachants ». C'est une arme de propagande, le diplôme.
Moi, je pense que ça peut servir justement sur des leviers institutionnels. En fait, on le voit pour l'opposition au projet, il faut montrer la présence d'espèces patrimoniales. Par exemple, l'outarde ici, qui a un enjeu fort en Deux-Sèvres. L'intérêt, il est aussi de créer un lien sensible avec des espèces qui ne sont pas patrimoniales. Parce qu'en fait, on s'en fiche un peu de la connaissance sur certaines choses. C'est très bien de savoir identifier différents taxons, de connaître les noms latins. Mais c'est aussi important en fait, d'avoir un lien sensible avec les espèces non humaines qui nous entourent. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche aussi à développer n'importe où, et pas forcément avec des espèces menacées ou patrimoniales. On a aussi des scientifiques du GIEC, par exemple, qui s'expriment relativement souvent, et ça n'a pas de poids vis-à-vis de nos politiques institutionnelles. Ça a un poids, certes, mais auprès des gens qui veulent écouter, dont c'est les intérêts de défendre ça aussi. Pour les autres qui ont d'autres intérêts, plutôt capitalistes, ça n'a pas forcément de poids.
On est un mouvement qui se veut quand même avec de la joie et avec une certaine espérance sur ce qui va se passer dans la suite, même si on est quand même... Notre but du jeu, c'est de créer des contre-récits face aux récits ambiants, environnants, qui nous faudrait nous faire croire qu'il n'y a plus rien à faire et qu'on doit rester au fond de notre canapé et regarder les choses se passer.
S'adapter aux catastrophes.
Oui, il faudra s'adapter, quoi qu'il arrive. L'adaptation, elle passe aussi justement par la meilleure prise en compte de tous les êtres vivants non humains, parce qu'en fait, ils nous rendent des services, on leur rend des services, mais surtout aussi sortir de cette dimension utilitariste et sortir de cette dichotomie nature-culture. Et ça, c'est une grande dimension qu'on a au sein des naturalistes des terres. On lit Descola, quoi. Et Pignocchi. On adore Pignocchi. Il est avec nous, d'ailleurs. Il fait partie des naturalistes des terres.
Le site là, d'accueil du village de l'eau, il a été réfléchi en fait sur cette cohabitation humain et non-humain. C'est le groupe local des naturalistes des terres des Deux-Sèvres qui a beaucoup pensé le projet. Et en fait, on a commencé par faire des inventaires des espèces et on a réfléchi à comment faire en sorte que la présence de milliers de personnes cette semaine soit pas trop dommageable pour les espèces qui vivent ici. Et donc, il y a eu des mesures en fait, mises en place pour faciliter tout ça, dans cette dimension de limiter l'impact, mais aussi de créer une attention collective en fait, aux espèces qui nous entourent. Ça n'a pas été un travail isolé des naturalistes des terres de leur côté. On a travaillé avec l'ORGA, s'est rappelé à beaucoup de prises de parole avant des conférences qu'il y a des espaces prévus pour les campings, qu'il y a une bande enherbée au bord de l'Argentière où il ne faut pas piétiner, où il ne faut pas poser sa tente parce qu'on dérangerait la loutre. Ou alors aussi, par exemple, sur l'installation électrique, les éclairages, on a travaillé avec les techniciens, techniciennes qui ont préparé l'événement en amont pour que les lumières aient certaines ampoules dirigées dans un certain sens pour ne pas déranger les espèces en présence, enfin en tout cas limiter le dérangement des espèces présentes ici. Dans ce but de cohabitation, toujours.
On est aussi sur une zone de captation d'eau potable. Il y a aussi toute une logistique autour des sanitaires qui a été mise en place. Il y a une nappe phréatique dans laquelle les gens boivent au-dessous de nous.
Exactement, ouais, tout ce qui est matière organique et rejet humain sont évacués du site, en fait. Il n'y a rien qui reste là, pour justement pas polluer les eaux ou les sols en présence.
Du coup, il y a des paysans du coin qui récupèrent toutes ces substances-là pour fertiliser leur sol plus tard.
C'est une fonction de plus aux naturalistes des terres, quand il y a un lieu de lutte et de campement, bah, de ne pas l'impacter plus que ça.
Bien sûr, on n'est pas non plus la police. Et le but du jeu, c'est de par notre expertise, de permettre une prise de conscience collective de tous ces petits gestes à mettre en place. Et cette dynamique, elle va à l'ensemble des participants. On n'est pas les garants de tout ça, en fait, on est là pour accompagner... tout simplement.
Tout le vivant, enfin pas seulement des espèces en voie de disparition, le tout, puisque tout est lié.
C'est ça, par exemple, Outarde, c'est une espèce parapluie qui permet de protéger d'autres espèces, que ce soit la vie faune ou autre. Mais ouais, l'intérêt, c'est de créer un lien sensible avec absolument toutes les espèces avec lesquelles on cohabite.
Et puis donc, je reviens sur cet autre objectif que vous énonciez, c'est aussi finalement dans les rangs militants, bah, apporter des grilles de lecture, des connaissances, des informations, une grille de visibilité de ce pourquoi on se bat.
Tout à fait. Bah, par exemple, il y a des espèces aussi qu'on ne peut pas voir si on ne fait pas la démarche de les voir. Par exemple, là, sur le village de l'eau, on a des plaques à reptiles qui permettent de voir des couleuvres, par exemple, qu'on ne verrait pas forcément juste en se baladant comme ça. Donc c'est mettre en place aussi des moyens pour qu'on puisse voir ces espèces et les contempler. Et voilà.
D'abord, il faut dire où on enregistre. Là, vous entendez peut-être le bruit d'une cascade derrière nous. Et puis, il y a ce cours d'eau, l'Argentière, mais qui coule quand même très droit. C'est bien rectiligne. Et derrière, quand on se tourne, là, on voit cette installation plastique. Il y a une espèce de parcours avec des piquets et du fil bleu. Parcours, oui, qui sinue. Comme c'est de l'art contemporain.
C'est une œuvre collective qui a été réfléchie par plusieurs personnes. des naturalistes des terres, des plasticiens, plasticiennes. C'est un travail de reméandrage visuel, hein. Plastique de l'argentière, c'est pas un travail de renaturation véritable.
Ça fait des S. Pourquoi le faire sinuer comme ça ?
Parce que la plupart des cours d'eau en France ont été recalibrés dans les années 50 et même avant. C'est le cas de l'argentière, on a regardé les plans d'orthophoto et on n'a pas les images d'avant les années 50. Donc il faut imaginer que ça a été fait avant. Les cours d'eau ont été recalibrés pour qu'ils prennent moins de place, que ça soit plus pratique, notamment pour l'agriculture mécanisée. Et donc ils sont beaucoup plus longilignes. Et donc là, ce travail de reméandrage, c'est l'idée de créer, comme le nom l'indique, des méandres qui sont de base naturelles en fait, sur les cours d'eau, mais qu'on voit beaucoup moins. Ça fait un peu comme des virages, un serpent qui sinue effectivement, qui permet en fait, à l'eau de s'infiltrer davantage dans les sols, de permettre aux zones humides en fait, de faire des zones tampons et à l'eau donc de rester là. Avec les recalibrages, l'eau elle file tout droit, beaucoup plus vite.
Le remembrement pour instaurer cette politique agro-industrielle avec les moissonneuses batteuses, etc. Effectivement, il fallait gagner de la place, faire des trucs rectilignes, y compris des cours d'eau. Ce reméandrage a fait partie du remembrement et vous en proposez un autre.
Oui, c'est ça. Bah, y a des travaux de renaturation et de reméandrage des cours d'eau qui sont faits hein, à d'autres endroits. Là, ce n'est pas le cas parce que ça ne dépend pas de nous. Mais c'est une idée qui pourrait être proposée et mise en place. Bon, ça suppose des moyens et des décisions politiques qui vont avec. Donc on n'est pas du tout certaine que ça sera le cas ici, mais en tout cas ça permet de visibiliser ça.
Ce que tu disais tout à l'heure, là, c'est ce que disent les gens notamment de bassines non merci, mais d'autres, c'est que c'est absurde de faire pourrir de l'eau dans des méga-bassines, que le meilleur endroit où elle est stockée, l'eau, c'est dans le sol et dans les végétaux.
Le reméandrage, justement, c'est se projeter un peu différent dans l'avenir, parce que justement tous les problèmes qu'il peut y avoir de sécheresse, d'inondations en fait sont souvent créées par cette uniformisation des rivières et qui sont rectilignes et du coup il n'y a plus en fait de rétention d'eau. Naturellement en fait quand il y a un méandrage beaucoup plus développé, l'eau se conserve dans les sols, toutes les phases en fait de pluviométrie elles sont beaucoup plus conservées dans les sols. Quand il y a beaucoup d'eau elle va se développer, s'élargir et être présente et rendre humide tous les milieux autour. Et elle conserve aussi l'eau plus longtemps, en fait, s'il y a des sécheresses dans ces zones-là, quoi.
Quand on renature justement un cours d'eau de cette manière, on laisse la possibilité d'une biodiversité qui avait disparu de revenir. Et c'est vraiment de prendre le temps.
L'eau s'écoule moins vite quand elle sinue.
Il y a une diversité de situations avec des berges différentes qui se créent de cette manière. Donc du coup, il y a des endroits pour pondre, pour certains poissons. Il y a une certaine flore qui a besoin d'un cours d'eau plus tranquille pour se développer. Et voilà.
Il y a aussi le fait que l'eau ne circule pas de la même manière, effectivement. Et donc, ça crée moins des espaces de fossés où l'eau creuse et va tout droit. Et en fait, là, par exemple, des méandres, ça permet que l'eau cogne dans les méandres et crée des pentes ou des profondeurs différentes, ce qui est intéressant pour un tas d'espèces qui vivent dans ces milieux.
On évoquait ces années d'après-guerre, très malheureusement les 30 glorieuses, pendant lesquelles tous les ravages dans ce processus de destruction qu'on a appelé le remembrement, voilà, pour faire passer des grosses machines agricoles, etc. Vous parliez d'habitat, et on a détruit ce qu'on appelle le bocage, des haies, des arbres, parce qu'il n'y a pas que faire sinuer des cours d'eau qui retient l'eau, il y a aussi la végétation qui peut aller autour, qui permet de couper le vent aussi pour éviter les assèchements.
Oui, il y a des tas de haies, je ne sais plus combien ça représente, mais c'est plusieurs fois le tour de la surface de la planète qui ont été arrachées pour faciliter la présence des machines, mais aussi pour créer des très 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 grandes parcelles en monoculture. Je parle de la France principalement, mais ça peut s'appliquer aux pays occidentaux. Ça a entraîné un effondrement de la biodiversité.
Quoique ici, on est quand même plutôt servi, il y en a des haies.
Oui, on est sur un site qui est quand même assez chouette. Hein. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs milieux présents. Il y a notamment des prairies hein, plus loin avec la réserve de biodiversité communale. On a du bâti aussi avec la présence du coup, d'espèces qui nichent dans ce bâti. On a par exemple les frais des clochers qui est là. On a eu un site de nidification de faucons cresserelles pour parler que des oiseaux, mais il y a aussi des chiroptères. Et on a cette vallée aussi de l'Argentière qui permet à un tas d'espèces, par exemple comme la loutre, d'être présente sur site. Donc c'est un site qui est quand même déjà intéressant de base, pas trop appauvri, quoi.
À part ce reméandrage, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous avez pensé pour ce site? J'ai entendu parler d'une mare.
Oui, alors il y a une mare et même une deuxième qu'on commence à être créée avec notamment le collectif des bâtisseuses des terres. Donc faudra en parler avec eux, ils seront plus au fait que nous. Mais effectivement, au fond du site, il y a deux mares en cours de construction et le substrat qui est récupéré dans les mares servira à isoler un sol pour les chiroptères qui sont dans le bâti là-bas.
À quoi ça sert une mare? À part prendre de la surface agricole sur laquelle on pourrait faire pousser, je sais pas, du maïs par exemple.
Une mare, c'est une explosion de biodiversité. C'est une zone refuge pour plein d'espèces. À plein de moments dans l'année, c'est une zone de reproduction aussi pour plein d'espèces. Les amphibiens, certains oiseaux. Créer une mare, c'est aussi permettre à la nappe phréatique de se relever aussi un petit peu en sous-sol. Dans une perspective de continuité écologique, c'est créer un point dans un corridor. Parce qu'en fait, une mare toute seule n'a aucun sens. C'est un réseau de mares, en fait, qui permet justement de créer des réseaux de migration, de continuité entre ces points-là.
Chez les naturalistes des terres, on essaye de ne pas être enfermé dans des questions naturalistes et qu'en fait, quand on dit de politiser ces questions-là, c'est aussi penser les questions sociales, les questions d'habitation, d'un territoire, en fait, et de penser les deux un peu ensemble, quoi. Et souvent, en fait, les endroits qui vont être ravagés par des aménagements, du remembrement ou toutes ces formes de captation du territoire, c'est à la fois pour des non-humains et d'autres espèces et pour les personnes qui habitent ces espaces-là. Là, j'ai en tête un autre territoire. On était sur une lutte aussi des soulèvements qui est en Île-de-France. Des zones qui sont à la frontière de Paris, en Seine-Saint-Denis, qui sont en fait pensées comme des plateformes pour Paris. Et en fait, autour de la Seine, il y a des très belles berges, des espaces naturels un peu préservés et tout. Et ces espaces-là sont captés pour mettre des entrepôts, des plateformes qui servent en fait d'espaces de couloirs. En fait, c'est des territoires subalternes en fait, qui n'ont pas de vocation propre pour être utilisés par les personnes et pour pouvoir vivre. En fait. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de la vie au centre de Paris pour pouvoir se baigner ou je ne sais pas quoi. Et là, en fait, il y a des espaces magnifiques. Il y a des espèces, des limicoles, donc des oiseaux qui vont aller près des berges et qui ont besoin de ces espaces-là pour se déplacer, pour se nourrir, pour vivre. Mais c'est aussi les espaces en fait, où vont les personnes. Elles auraient envie d'avoir ça aussi pour elles, près de chez elles. Quoi. Et du coup, c'est aussi toujours essayer de penser un petit peu ces choses-là ensemble. Ça permet de créer aussi des relations de voisinage avec d'autres espèces, de penser ensemble, en fait, d'un vivre ensemble. Quoi, un peu. Et c'est chouette en fait, de se dire ça, parce qu'on n'a pas envie d'être dans une bulle en fait, où nous, on vient défendre. On ne va pas défendre un truc sous cloche, et que c'est toujours penser dans la relation et comment en fait, ces usages-là ils se combinent et ils peuvent petit à petit... recréer des relations un peu plus belles que ce qu'on a connu ces dernières décennies dans notre aménagement du territoire et tout.
Évoquer les endroits où les naturalistes des terres se sont investis depuis 2 ans. Tu parlais tout à l'heure de Paris.
Plusieurs endroits où les naturalistes des terres se sont pas mal engagés, donc autour des bassines. Au début du collectif, il y a une grosse mobilisation où les naturalistes des terres se sont beaucoup engagés. C'était à Rouen, contre un projet d'autoroute à la forêt de Bord, près de Rouen. Et là, en fait, il y avait toute une dynamique du week-end qui était faite à partir de gestes naturalistes qui étaient posés pendant le week-end et de sensibilisation en fait, d'espèces en fait, qui étaient prises un peu comme des espèces totems et du coup des gestes qui étaient posés en fait, pour les accueillir et favoriser en fait, des milieux où elles pourraient venir parce qu'elles étaient souvent juste à côté ou dans des milieux qui étaient menacés par le projet, hein, par exemple d'avoir des arbres sénescents pour des piquemars. Aller marquer des arbres ou protéger les parcelles de forêt qui étaient menacées. Ça, c'était une grosse mobilisation à laquelle on a participé. Après, il y en a eu pas mal d'autres. Là, celle dont je parlais, c'était autour du Green Dock avec les soulèvements, donc en région parisienne, où il y a une zone Natura 2000 juste en face du futur projet d'entrepôt. Dans les études d'impact, en fait, ils font comme si les deux étaient séparés alors que c'est à 80 mètres de distance. Et du coup, il y avait tout un travail d'ouvrir des espaces, de favoriser en fait, les espaces autour de la zone Natura 2000 pour accompagner aussi les espèces, que les gens s'en rendent compte. Et aussi la mairie qui disait « oui, si jamais ça a des impacts sur la zone Natura 2000, j'arrête tout de suite ». Et du coup, c'était aussi essayer de créer cette dynamique politique pour rendre compte de ça. Il y a eu dans le Jura récemment aussi, où il y a un projet de panneaux photovoltaïques. Et du coup, on a accompagné un peu la lutte locale qui a vraiment tenu la lutte. On est venu aussi accompagner sur les questions naturalistes. Souvent, ce genre d'organisation, là, sur le village, ça a été vraiment, il y a eu un travail d'amont énorme, ce qui a rarement été fait avant. On n'a jamais eu l'occasion de faire ça. Et sinon, sur les week-ends, c'est qu'en fait, il y a vraiment tout un moment de balade, de sensibilisation, de compréhension des enjeux naturalistes. Et après, en fait, quand les gens se mettent en mouvement et en défense de ces territoires, il y a toutes ces questions-là qui sont un peu intégrées par chacun, en fait. Et du coup, si jamais, par exemple, il faut revenir défendre cet endroit, en fait, il y a des débuts d'attachement qui se font collectivement, qu'on n'a pas si on vient en tant que militant et qu'on traverse un bout de France et qu'on arrive, on repart et qu'en fait on n'a pas du tout eu de lien avec le lieu et les êtres qui y vivent, que ce soit des humains ou d'autres êtres. Quoi.
Il me semble me souvenir maintenant que dans le conflit de l'A69, qu'à un moment le projet a été un peu glacé parce qu'il y avait des oiseaux protégés qui nichaient dans des arbres qu'ils entendaient abattre pour faire passer leur autoroute.
Il me semble que c'était une mésange bleue. Ouais. C'était dans un contexte d'occupation d'arbres depuis quelques semaines. Et c'est dingue qu'on a réussi à faire bloquer justement l'avancée de ces travaux qui étaient complètement illégaux. Cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait, finalement, c'était la présence de cette mésange. Et donc oui, l'idée, c'est vraiment d'accompagner. C'est un peu utilitariste à cet endroit-là, mais c'est un levier politique de pouvoir bloquer des avancées de projets d'aménagement grâce à la présence d'espèces protégées.
Donc on a déjà abordé la notion d'anticapitalisme. Vous avez parlé aussi d'antifascisme en début d'entretien. Qu'est-ce qu'il vient faire là, le fascisme ? Il y avait des nazis qui adoraient la nature.
Mais ils ont une notion de nature...
Que je vous soupçonne de ne pas partager.
C'est clair. En fait, l'idée, c'est de réagir face à cet écofascisme. Je vais vous lire un extrait d'un texte qui a été co-construit collectivement aux dernières rencontres. Donc face à la théorie écofasciste, nous défendons une autre vision du vivant, à même d'alimenter un nouvel imaginaire, manquant cruellement à l'horizon politique et culturel actuel. Nous refusons de voir la nature et nos terres comme support d'une idéologie réactionnaire. Nous souhaitons entretenir avec le vivant des relations de cohabitation et d'attention dans des milieux partagés, à l'opposé d'une position d'extériorité et d'une vision de la nature comme patrimoine. L'idée, c'est vraiment d'être en contre-violence face à la violence que pèse l'écofascisme et le fascisme tout court.
Une définition d'écofascisme.
Quand l'extrême droite parle d'écologie, c'est pour défendre une vision essentialiste de la nature et le fantasme d'un passé rural qui aurait été bouleversé par la modernité. Le fascisme se sert du concept de nature, de ce qui serait à son sens naturel, pour dominer systématiquement les minorités et les milieux. Et dans les faits, le Rassemblement National et ses alliés politiques, ils soutiennent les industries les plus polluantes, ils soutiennent les OGM. Et donc nous, notre travail, c'est aussi de se positionner contre ça.
Tout ce qu'on cherche un peu à faire, c'est une attention à l'autre, en fait, mais une attention à l'autre qui est extrêmement élargie et qui est aussi à d'autres espèces. L'écofascisme, en fait, il n'y a aucune prise en compte de l'autre, c'est juste quelque chose d'essentialisé sur une terre qui voudrait figer, en fait, dans une image qu'ils ont, mais ils n'ont aucune relation, en fait, avec ce qui les entoure et de coévolution, de cohabitation. Enfin, là, on est, en fait, dans des enjeux où détruit massivement les milieux dans lesquels on vit. On est dans quelque chose qui doit évoluer, qui doit se déplacer, où on doit être attentif et construire, et pas du tout avoir une vision extrêmement réactionnaire d'un paysage où ils n'ont aucune attention en fait, à des espèces en fait, qui sont traitées comme des subalternes, des choses qui ne comptent pas. Il n'y a aucun moment, en fait, c'est pris en compte dans leur appréhension de ce qui les entoure. Quoi.
Même au sein de notre propre espèce, enfin, ça peut aussi s'accompagner de discours essentialisants sur les hommes, les femmes. Je me souviens d'un ingénieur agronome à bretelles et chemise à carreaux qui disait sans broncher que l'homme et la femme ne sont pas égaux mais complémentaires parce que c'est comme ça dans la nature. Ça relève d'une pensée écofasciste, ça, ou c'est juste débile ?
Oui, je pense qu'il y a de ça. Dans les pensées un peu vraiment réac sur ça, assembler une vision figée du corps humain ou des êtres qui sont autour, c'est pareil. Ou qui appartient au territoire et qui n'appartient pas au territoire. L'idée que quelque chose va venir envahir leur espace et tout, et ils protègent une sorte de précaré qui est en fait juste leur monde, leur petit monde à eux, c'est tout en fait. C'est pas... Ils pensent être des indigènes et que tout le reste est un ennemi qui n'a pas sa place, quoi. Et dans leur vision, en fait, il n'y a rien qui a de la place. Enfin, ça tient pas la route, leur truc.
Le travail en tant que naturaliste des terres, entre guillemets, c'est de politiser le monde naturaliste. c'est d'amener une forme de prise de conscience collective qu'on a besoin de dépasser certains clivages et de créer une posture qui serait décoloniale, de l'ordre de l'écologie décoloniale. Face à certains naturalistes qui n'ont pas du tout cette posture-là, l'idée c'est aussi de créer un contre-pouvoir.
On parle de vivant non humain depuis tout à l'heure, mais parce qu'on parle de naturalisme, donc c'est normal. Mais on a conscience au sein du collectif que les oppressions, elles sont systémiques et que du coup, on partage des milieux avec des non-humains, mais aussi avec des humains. Et le but, c'est cette convergence des luttes, en fait. On se donne des horizons anticoloniaux, féministes, parce qu'on considère que tout ça va ensemble et que les oppressions qu'on fait subir aux vivants non-humains et à la Terre, elles existent aussi sur les humains. On essaye de joindre tout ça en même temps.
La question coloniale, piller les ressources naturelles d'un pays qui est moins armé que le pays colonisateur, ça veut dire détruire les milieux aussi.
En fait, c'est la base de un peu tout ça, parce que c'est que des processus de colonisation, en fait, à différents niveaux, à différentes échelles. On ne peut pas tout mélanger, hein, mais c'est juste que quand même le processus, même là, de tout ce qu'on raconte, des luttes qu'on a contre des aménagements, c'est de la colonisation à chaque fois de territoires.
Il peut y avoir un processus colonial, je suis en train de percuter ça, la colonisation, ça se passe en France.
C'est en France, oui, complètement. Oui. Mais en fait, il faut aller finement dans toutes ces descriptions, parce qu'il y a énormément d'enjeux en fait, qui sont liés à tout ça, et c'est pas possible d'avoir juste une lecture simplifiée de oui, tout.
Je vous fais faire des trucs un peu à l'emporte-pièce, oui, là. Oui. Alors, les spécialistes excuseront la caricature et les raccourcis.
Mais effectivement, en fait, ce qu'on peut avoir comme en tête, c'est que c'est des mêmes questionnements qui sont à la base de ça, en fait. C'est que des enjeux qu'il peut y avoir dans les questions décoloniales sont aussi des choses qui traversent nos réflexions et nos pratiques de lutte. Quand on est dans ces questions naturalistes, en fait, on doit en permanence en fait, arriver à se décaler, à considérer qu'il y a d'autres personnes, d'autres êtres qui sont sur ces territoires, qui les habitent différemment, qui les vivent différemment, et leur manière d'habiter. Ce qu'il y a en écologie, en fait, c'est qu'il y a plein d'habitations différentes de milieux dans lesquels on est, et qu'en général, ce qu'on fait et ce qu'on lutte, c'est qu'on décide de faire une grosse maison pour nous et de tout prendre pour nous, et que toutes les autres maisons, tous les autres habitats, en fait, on cherche à les faire disparaître. Un projet, là, ça a été arrêté pour la Mésange sur Toulouse-Castres, parce que la Mésange Bleue, là, c'était sa maison, et qu'on l'a vue sur site, et du coup, juridiquement, on a pu défendre les trucs. Quand elle ne sera pas là, on va juste faire disparaître, en fait, le bois. La maison, elle aura disparu, et juste pour faire l'autoroute qui passera là. Et c'est un processus permanent de captation, en fait, des habitations et des milieux pour les aménager à nos propres fins, quoi. Donc, évidemment, ça rejoint...
C'est lié.
C'est toujours le capitalisme, à la fin, qui pose problème, quoi.
On le rappelle, hein, les Naturalistes des Terres est un jeune collectif qui, au moment où on se parle, 2024 à 2 ans, vous disiez. Est-ce que vous avez des victoires à célébrer? Des sujets de satisfaction, disons.
Nos victoires, c'est déjà de réussir à poser des actes et d'accompagner des luttes à amener une dimension naturaliste. Partout où on est allé, où ça a pris, en fait, c'est déjà des victoires en soi.
Moi, je pense qu'on a plusieurs victoires, déjà en commençant par l'organisation en fait, de ce collectif. Hein, je veux dire, c'est la politisation et l'organisation des naturalistes, c'est pas quelque chose qui existe depuis toujours. Il y a eu les naturalistes en lutte sur le projet Notre-Dame-des-Landes qui a mené à une victoire aussi, qui a participé à mener en tout cas à cette victoire. Mais le fait que les gens souhaitent s'organiser, ça montre qu'il y a un intérêt pour ça et qu'on est en recherche de structuration de ces réseaux-là, et ça prouve un intérêt, et donc j'imagine une suite qui va être positive, rien que là en fait. Donc il y a eu effectivement toutes ces actions qui ont été menées, qui ont mené à des victoires ou non, à chacun de, et chacune de le ressentir personnellement, mais rien que là, je pense que sur le village de l'eau, c'est une réussite en fait, que ça soit intégré collectivement par des gens qui de base ne sont pas forcément sensibles à ces questions-là, c'est pour moi une victoire déjà.
Ce qui est fou là, il y a déjà des rapports de force, certaines luttes on est engagé, mais je pense que c'est beaucoup des collectifs locaux et nous on a un peu d'appui, mais voilà. Mais surtout qu'en fait on a eu plusieurs luttes où c'est les personnes des collectifs qui sont venues nous voir, qui ont envie de pousser ces questions, qui viennent avec des idées pour que la lutte trouve une intensité beaucoup plus forte autour des enjeux naturalistes, que collectivement en fait tout le monde s'en empare et que tout le monde, en fait c'est des moments super joyeux quoi. Quand on passe du temps sur ça, les gens ils sont beaucoup plus heureux et apaisés quand ils partent et tout, et ils savent en fait pourquoi ils sont là, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai eu des trop beaux moments comme ça. Collectivement, en fait, tout le monde s'est emparé de ça. Et aussi une demande, en fait, complètement au-delà des naturalistes des terres, de plein de personnes, en fait, qui ont envie de prendre beaucoup plus de temps, d'attention et de place dans les luttes sur les questions naturalistes, quoi. Donc ça, c'est une énorme victoire. Enfin, moi, je trouve ça incroyable.
On parle aussi, bah voilà, pour les méga-bassines, d'accaparement de l'eau, mais on peut aussi parler d'accaparement des terres. Et Fatima Wessak en parle bien mieux que moi, mais en privant les gens des terres, on les a privés de ce lien-là avec le vivant. Il y a une grande demande, en fait, de recréer ces liens-là et d'amener les gens à ressaisir, en fait, ce qui les liait à la terre et ce qui les lie encore. Et ça, c'est positif aussi, en fait. Et le fait que ça marche dans les grandes villes, mais ça marche aussi en ruralité. Vous voyez, là, on est à Mel. On parle d'une commune où il y a à peu près, je crois, 4000 habitants. Et ça fait 2 mois que les gens, ou 3 même, que les gens s'organisent autour de ces thématiques-là. Donc c'est super, enfin, c'est quelque chose qui marche à plein d'endroits et qu'on encourage et qui va sûrement continuer.
Merci à ces naturalistes des terres pour cette balade dans la vallée de l'Argentière où s'est donc installé le village de l'eau. Jeudi 18 juillet 2024, le village de l'eau bat son plein depuis 3 jours avec dès le matin des sorties naturalistes donc, mais aussi des tables rondes, formations, conférences, assemblées, rencontres, projections et le soir, des concerts. Il y a de l'effervescence dans l'air, mais pas que. Dans l'air, il y a aussi des hélicoptères de la gendarmerie qui viennent de temps en temps survoler le site. À la veille de 2 grandes manifs actions, on a aussi appris que des camarades cyclistes qui pédalaient jusqu'au village de l'eau se sont fait agresser en chemin et que des gens de la coordination rurale, syndicat agricole proche du Front National, ont annoncé leur intention de venir à Mel.
Jeudi, sur le village de l'eau, il est passé 13h, le point info vient d'avoir lieu. Et on retrouve Julien Leguet, bassine non merci. Salut Julien.
Salut à tous et à toutes.
T'as même pas les traits trop tirés, ça va?
Ouais, j'ai passé une bonne nuit, j'ai pu retrouver mon amoureuse, j'ai dormi dans mon lit, tout ça, c'était bien.
Tu évoquais hier, quand on s'est vu là, le fait que la CR, Coordination Rurale, souhaitait organiser une manifestation à Mel.
Oui.
Contre-manifestation.
Bah, cette manifestation, elle a été interdite par la préfète ce matin. Sachant qu'en parallèle, le maire Sylvain Griffo, qui a été sollicité pour un prêt de terrain, vu qu'il nous prêtait aussi un terrain, a pas botté en touche. Il était en égo avec la Comcom pour qu'il puisse aussi, parce qu'il serait un certain nombre à venir de pas tout près, à pouvoir se poser. Moi, franchement, ça me va bien. Du moment que ils sont pas là avec des engins, puis qu'on les laisse pas faire n'importe quoi avec un coup dans le nez. Parce que c'est ça aussi la réalité, c'est que la CR, c'est quand même un syndicat agricole, toute une typologie et des grosses scissions au sein de la CR. La ligne du national n'est pas la ligne de la CR 47, qui là est très clairement Front National. Hein, et ils ne peuvent que le reconnaître, puisque le fiston de Bousquet-Cassagne, il a été élu régional, et puis Bousquet-Cassagne soutient ouvertement le RN. Mais je ne fais pas de signe égal, déjà parce que c'est casse-gueule, parce que ça met des gens dans une case, alors que peut-être qu'on peut les en sortir. Et puis que concrètement, en fait, la coordination rurale, historiquement, c'est une coordination de tout un tas de mouvements qui s'étaient basés à la base contre la PAC de 92, dans lequel même la CONF et le MODEF, qui sont des syndicats plutôt classés à gauche, participaient. Et ensuite, ça s'est un peu vidé de son sens, et ce qui est resté dans les différents départements et qui a constitué la CR restante, c'est ceux qui restaient, souvent de droite. Mais en réalité, il y a... ça va pas être un mouvement de foule chez eux. Il y a une bonne part qui est de l'esbrouf, du bluff. Et puis là, en plus, qu'il y a des arrêtés préfectoraux, ça va les rendre encore plus réticents à prendre des risques. Et donc, assurément, il va bien y avoir quelques zozos qui vont faire le déplacement. Mais la CR79, elle ne se sent pas très concernée. La CR86 non plus. En réalité, ce qui a été proposé de très intelligent à l'initiative du maire, c'est un espace de parole entre paysans. Dans l'optique en fait, de faire ce constat qu'il faut dialoguer et que la condition du dialogue, c'est le moratoire. Et donc, proposition a été faite par la mairie, avec l'assentiment du MODEF, de la Confédération Paysanne et de certain nombre d'autres paysans non encartés, non syndiqués, d'un espace de parole autour des préoccupations paysannes quoi, et de la place des bassines là-dedans. Et la semaine dernière, j'avais lancé l'invite à Franken, hein, à venir au village de l'eau. Bon, compte tenu qu'il y a 2 nuits, il y a eu des camarades qui ont été attaqués par l'extrême droite du côté de Bordeaux lors d'un convoi, c'est peut-être pas très bienvenu.
Donc, 5 personnes sont venues agresser le convoi, ont sauté sur une tente où il y avait une personne d'un certain âge qui dormait, quelqu'un s'est fait péter la gueule, le nez. On volait des vélos aussi.
Ça n'a pas été revendiqué par la CR, mais c'est des modalités d'agissement qu'on connaît chez un certain nombre de ses adhérents là-bas en particulier. Et évidemment, ça a créé une certaine tension en notre sein. En tout cas, il y a un espace de parole qui est proposé en lieu neutre. Nous, on ne va pas les empêcher de manifester. C'est un droit fondamental pour eux comme pour nous. On s'est posé la question de demander à la préfecture d'interdire les tracteurs, puisque c'est ça le plus dangereux, c'est qu'il y ait des tracteurs qui viennent faire de l'intimidation. Et en fait, même, on ne veut pas interdire, empêcher les paysans de travailler. Donc, avec les camarades de la conf et autres, on a dit on ne fait pas cette demande-là. Par contre, il faut vraiment que la préfecture et le général Dubuis, il faut qu'ils sachent très très bien ce qu'ils font. Et s'ils laissent la CR se déployer avec des tracteurs et avec les consignes qu'il y avait il y a une semaine de sortir les lames et compagnie, on sera retrouvé les responsabilités s'ils venaient à les laisser être déployés dans ce mode-là. Mais je tiens à rassurer, ce n'est pas du tout le chemin que ça a pris. Hein. C'est redescendu, y compris dans la com de la CR, qui a dit que leur objectif, c'était de protéger les fermes. C'est inutile, puisque les fermes ne vont pas être attaquées. Et on le dit, on le redit, les fermes et les individus n'ont jamais été les cibles. Et là, on a spécifiquement désigné qu'on allait dénoncer des infrastructures qui font le système bassine. Donc des individus plutôt privés, voilà. Donc qu'ils se rassurent, on les appelle aux, une forme d'apaisement et désarmement. Oui.
Il règne en ce jeudi une sorte d'ambiance de veillée d'action avant ces 2 grandes manifs qui auront lieu dans les 2 jours à venir. Une manif-action dans une campagne le lendemain, vendredi, et l'autre manif le samedi au port de la Palisse de La Rochelle. Et honnêtement, votre serviteur n'est pas certain d'avoir super envie de se faire Sainte-Solinet. Pas motivé pour aller manifester, même s'il y a pique-nique.
Est-ce que je peux te faire part d'un ressenti tout à fait personnel? Ouais. Je suis vaguement inquiet. J'ai des interrogations sur la tactique. Ouais. Je suis inquiet, mais en même temps sans l'être, parce que je sais que les gens de Bastille Non Merci, des Soulèvements de la Terre, sont des gens intelligents avec des cerveaux et des cœurs. Surtout après ce qu'on a médité sur Sainte-Soline 2 du 25 mars 2023. Ouais. Les gens qui s'occupent, qui gèrent, co-gèrent ce mouvement et cette coordination ne sont pas gueudins et n'ont pas envie de transformer les gens du village de l'eau en chair à pâté. Ouais. Cela dit, je suis inquiet, qu'est-ce que tu pourrais me dire éventuellement si tu avais envie de me rassurer? Sinon tu peux me dire, ouais, reste à la base et bois un coup.
Ouais, bah déjà que les gens qui partageraient ton inquiétude, il faut qu'ils puissent l'exprimer et il faut qu'ils puissent trouver leur place dans un tel mouvement. Et il y a un vrai enjeu demain à ce que des gens restent au village. Il y a des conférences qui vont se tenir. Il y a des camarades qui vont revenir de manif et qui auront besoin d'être accueillis, simplement. Donc il y a des cantines, il y a toute une logistique à faire tourner. Et en fait, c'est aussi du courage et c'est aussi une manière de porter la lutte. Voilà, on n'est pas dans le truc masculiniste et si tu n'y es pas allé, t'es... Non, tout le contraire. Il y a une place pour tous.
Pour tous, donc.
Pour tous. La grammaire, qui n'est pas la grammaire de ma grand-mère. C'est bien, ça nous apprend à... C'est super. Et pour ceux et celles qui envisagent faire la manif, je dis et je redis ce qui vient d'être dit. Il y a des modalités qui sont imaginées, qui sont créatives. Il va encore y avoir des sacrées surprises, mais toujours des surprises qui vont dans le sens à la fois d'avoir une manif qui a du sens. Ce qu'on a dit, c'est qu'on refuse ce diktat qui veut nous empêcher de manifester et de nous exprimer. Donc un des enjeux, c'est de sortir du camp. Mais on ne va pas se mettre en danger de mort pour sortir du camp. Il y a largement de quoi faire et il y a un plan B. Si vraiment c'était blockhaus total autour...
Parce que toutes les routes goudronnées qui arrivent ici sont quand même barrées de forces de l'ordre.
C'est une toile d'araignée hein, et plus on éloigne du périmètre et plus c'est facile de s'en extraire aussi. Hein. Moi je sais comment je pars en voiture demain et je partirai sans difficulté. Donc il y a des trucs qui sont prévus par leurs gars. Et puis ensuite,
il y a un passage secret, vous avez creusé un tunnel pendant l'hiver.
Ouais, c'est ça. En fait, ils ne connaissent pas le territoire, c'est toujours pareil. Quoi, hein. Et donc il y a les infolines qui sont remises à jour, etc. C'est des moyens. Il faut marcher un petit peu, il faut se garer un peu loin, et puis marcher un petit peu. Et puis et surtout, il y a 3 lieux de rendez-vous qui ont été donnés qui ne sont pas ici. Qui sont à Rouillé, qui sont à Saint-Mexon, qui sont à Poitiers. Donc ces camarades-là, ils vont aussi se rassembler, ils vont aussi prendre la route vers la destination finale. De toute façon, on ne sera pas dans la conformation de l'an dernier, puisque Darmanin a annoncé 4000 hommes. Mais sauf que ces 4000 hommes, ils vont être devoir répartis sur un territoire très large qui est l'ensemble du Poitou. Et pour cause, hein, potentiellement on peut intervenir n'importe où dans le Poitou. Ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on va se déplacer en voiture, donc c'est des nouvelles modalités de communication, de s'organiser, il faut faire des paquets de 5, de gens qui s'entendent, qui sont prêts à vivre une expérience similaire et qui parlent un petit peu de ce qu'ils ont envie de vivre ensemble, quoi, et comment ils prennent soin les uns des autres. Non, moi je suis assez serein parce que de toute façon, on avait décidé que les niveaux d'intervention ils seraient fonction des résultats des élections. Et on est dans ce contexte où il y a un piège qui est tendu, avec Darmanin qui est encore aux manettes de manière assez improbable, et dont on connaît la face très sombre et abjecte du bonhomme, qui est prêt à donner des ordres, de tirer sur des gens à 200 mètres, y compris enfants, enfin voilà, rien à foutre. Donc ça on le sait. Donc ce que je dis, la stratégie de demain, elle se résume, Bruce Lee l'aurait résumé ainsi, soyez comme l'eau, be water, la fluidité, voilà. C'est l'eau, elle passe partout, il y a toujours un trou.
Voilà, j'ai entendu parler en objectif de pique-nique, j'ai pas entendu parler de désarmement, mais je devais pas être attentif. Ou...
Ouais, c'est ça, moi non plus. D'ailleurs, le terme est typiquement... aujourd'hui, ça se retourne dans notre grande ambiguïté, parce que si je devais donner comme mot d'ordre en grande assemblée, je vous invite à tous désarmer, ça serait perçu inversement. Ça pourrait être une consigne de méga-sbeul. Je me suis fait la réflexion hier, je me dis, merde, on est bloqué. Donc on parle plus volontiers d'apaisement.
Ouais, mais comment on peut plus dire sabotage, alors on est coincé, quoi.
Non, mais il y a plein d'autres mots, il y a démantèlement, il y a remise en état, hein. Même projet de renaturation. Quand tu débâches une bassine, tu peux aussi le percevoir comme ça. C'est une étape de désartificialisation dans l'espoir que ce milieu qui a été complètement détruit, il y a des formes de vie qui reviennent. Donc c'est même pas une arnaque lexicale que de parler de chantier de renaturation quand on débâche. Vraiment, on peut le décliner, quoi. Démontage, c'est un peu être encore une modalité. Des fois, même sans destruction, enlever le bout de tuyau au bon endroit, c'est des qualificatifs qui sont moindres, hein. Des modalités qui sont aussi intéressantes. En fait, le truc, c'est par ces gestes-là, venir dénoncer des systèmes, venir bloquer temporairement, c'est toujours des actions qui sont en réalité de l'ordre du symbolique. C'est toujours réparé à terme. Mais ça montre et ça désigne et ça matérialise les problématiques.
Alors voilà pour le lexique et ce point orthographique. Tu remarqueras la fourberie de ma manœuvre. En fait, c'était pour tâter et me dire, mais est-ce que des actions de désarmement d'infrastructures sont prévues? Enfin, je n'ai pas cru comprendre ça.
J'ai pas cru comprendre ça non plus. D'accord.
Lâchement, après, je me permets de calculer en truc policier. Je me dis, bon, voilà, s'ils ne pensent pas qu'il y a une agression contre un tuyau, et peut-être qu'on s'en prendra moins.
Perso, j'étais favorable d'aller voir notamment les autorités, la CR, etc., pour les détendre et leur dire, mais de toute façon, détendez-vous. On va être dans le champ traditionnel, classique, blocage, visibilisation. Et on sait bien qu'il y a une crispation à leur niveau. Ils ne prennent pas de la même manière. Ils parlent même de violence quand on s'en prend un tuyau. La violence, c'est quand ça touche un être humain ou quelque chose de vivant. Donc ils parlent de dégradation, là on parle de remise en état, dont acte. C'est les actes sur lesquels ils ont justifié la violence de leurs propos, parce qu'ils mettent sur un pied d'égalité la protection des biens et la protection des personnes. Et ça c'est quand même très nouveau. On pourrait interroger un Darmanin sur justement ces notions lexicales, quoi. Parce qu'il faut redire que Sainte-Soline, c'est 4000 hommes qui tirent à 200 mètres, 5000 bombes en feu discontinu pour protéger un cratère vide, où il n'est même pas question de protection des biens, en fait. Il est question de protection d'un symbole, d'un cratère, et d'orgueil gouvernemental, et pas autre chose.
Et l'an dernier, la bassine de Sainte-Soline, c'était juste un trou avec rien dedans.
Il n'y avait pas de bâche, il n'y avait pas de bâche. Et on a bien vu, quand ils veulent mettre du matériel à l'abri avant un chantier, ils enlèvent les engins. Il n'y avait même pas de dégradation à commettre, quoi. On aurait pu communiquer, moi j'étais favorable, notamment pour détendre la CR, etc. Mais en fait, je pense que la meilleure chose qu'on a à leur dire, parce que c'est la vérité, parce que c'est, entre guillemets, notre code d'honneur, parce qu'on est comme ça, c'est que les fermes et les familles, les individus, même les vies de flics, c'est pas des cibles du tout. Ça n'a jamais été le cas, et ce mythe des tueurs de flics, mais il faut arrêter avec ça. Il y a des gens qui viennent se battre pour l'eau, et qui sont capables des fois de s'interposer aux forces de police, parce qu'ils ne tolèrent pas qu'on vienne s'en prendre à nos libertés fondamentales de manifester. C'est pas autre chose. C'est pour ça que les Black Blocs donnent jamais le premier coup non plus. À partir du moment où il y a bafouement de libertés fondamentales, ils interviennent.
On vous en a parlé beaucoup, mais il n'y a plus vraiment ni de piquet de sardines, ni de parapluie, ni de la canne d'une personne qui avait besoin d'une canne pour marcher, ni des pompes à vélo. Un gendarme m'a dit quand même qu'une pompe à vélo, c'est, quand on la prend dans la gueule, ça fait vachement mal. Ni d'antivol, ni de machin.
Une carotte.
Il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de pompe à vélo, il n'y a plus d'antivol et il n'y a plus de parapluie.
Il y a eu je ne sais combien de milliers de contrôles, c'est sans discontinu. Et ce matin, il y avait un article dans l'ANR sur les 400 objets trouvés. 400, c'est ridicule, vu le nombre de personnes qui sont là et vu le nombre d'habitants du territoire qui ont été contrôlés. Et quand on sait que c'est des contrôles avec un arbitraire, puisque notamment est prélevé tout ce qui est décrit comme arme par destination. Et ça, c'est au bon vouloir, au bon jugé de l'agent. Hein. Ça va être comme la dernière fois, on va aller rechercher en gendarmerie tout un tas d'objets plus ubuesques les uns que les autres. Ils auront fait leur petit récit, la mort moelle-neuve. Et là, je redis, il faudrait qu'on regarde ça pour voir qui sont les violents. Les médias demandent à ce que soit exposé également tout l'arsenal emmené par les forces de l'ordre. Et là, on verrait qui vient avec des intentions belliqueuses, on verrait qui vient générer la violence et mettre le feu à ces territoires-là. Et en plus, la stratégie, elle est absolument stupide, puisque de début, on a annoncé qu'il n'y aurait pas de manifestation à Mel ou dans le pourtour. Donc tout ce qui est matériel de protection, etc., ou même matériel plus offensif comme des feux d'artifice ou des choses comme ça, il faut être stupide pour le ramener sur le camp, si c'est pour le ressortir après, c'est ridicule. Donc il y a de l'argent public qui est perdu, il y a peut-être des agents, des forces de l'ordre qui vont prendre des insolations, hein, qui vont vivre des mauvais moments, ils sont chauds, ils crament, ils ne servent à rien. Ils entretiennent au contraire un climat un petit peu détestable. Alors ça se passe bien, hein, relativement bien. Il n'y a pas eu d'affrontement du tout. Il y a eu même peu de moments de friction. Mais parce que là, ça tient à des interlocuteurs qui sont plutôt les interlocuteurs locaux. Parce qu'ils auront affaire à nous encore demain. Et qu'ils sont tenus à une forme de respect. C'est pas du tout la même quand t'as les Golgothes là, qui débarquent, foncés dans le tas, on vient, on part, on s'en va, appeler Attila, quoi. Donc là, ça se passe un peu différemment. Même si c'est hyper chiant et hyper scandaleux de voir... la pression qu'on a subie lundi avec la commission de sécu, où tu avais ce double paradoxe, où on nous reprochait de ne pas avoir les équipements de sécu, et qu'en même temps, ils étaient bloqués, on ne pouvait pas faire entrer les extincteurs. Mais ça, c'est le béaba des stratégies préfectorales. C'est là où ils sont nullissimes, en fait. Leur vrai savoir-faire, il est là, là où ils devraient plutôt se spécialiser dans animer un débat, faire de la concertation, être capable de faire coexister des intérêts différents. Et ça, ils sont beaucoup moins équipés.
Et on le rappelle pour les gens qui s'interrogent pourquoi La Rochelle et pourquoi ce port de la Palice, et bien c'est la mondialisation, ces céréales, ce maïs produit par l'agro-industrie ici est vendu sur les marchés mondiaux et ça passe par le port de la Palice. Et beaucoup de produits chimiques, pesticides, intrants, etc. arrivent par ce port de la Palice et c'est pour ça qu'il a été choisi comme endroit symbolique.
Ouais, bah, notamment éclairé par le super reportage de Off Investigation, autopsie d'un scandale d'État. Et qui est venu vraiment décrypter qui étaient les véritables bénéficiaires et qui avaient été les vrais promoteurs des projets de méga-bassines. Ben, comme on le dénonce depuis un moment, mais là du coup c'est bien mis en lumière, c'est beaucoup plus une affaire d'énormes industries, de gens de l'agroalimentaire qui vont vouloir faire du petit pois sous contrat, de grosses coopératives agricoles qui vont à la fois racheter à vil prix les productions locales et vendre à fort prix les engrais azotés, les pesticides qui foutent en l'air les nappes, etc. et qui ont complètement étranglé la profession paysanne dans sa globalité. Au port de la Palice, par 80% du blé produit en Poitou-Charentes. Donc ça vient aussi démontrer qu'en fait, le système agricole qui est mis en place aujourd'hui, ce n'est pas un système qui est basé sur l'autonomie alimentaire ou la relocalisation des productions, mais bien que ce soit le blé ou le maïs, c'est des formes d'export de l'eau des territoires. J'avais fait un calcul que pour un kilo de maïs, c'est l'équivalent d'une tonne d'eau qui part à l'export. Et de la même manière, on reçoit au port de la Palice des marchandises qui, elles aussi, accaparent les eaux. Je pense notamment aux tomates qui peuvent pousser en Tunisie ou au Maroc et qui arrivent là et au détriment de toutes les populations dont on pile les nappes phréatiques profondes qui ne se reconstituent pas. Donc c'est évidemment là qu'on veut appuyer. C'est aussi un port négrier historiquement. Et notre rassemblement, il est clairement antifasciste et anticolonial, décolonial. On pense très fort à ce que vivent nos camarades en Kanaky aujourd'hui. On pense très fort à ce qui se passe à Gaza. On a aussi reçu de nombreuses délégations et des interprètes et tout un tas de camarades de partout dans le monde. Ben, on voulait être à ce port qui contribue à cette catastrophe mondiale parce qu'en réalité... Ce qui tue notre planète, c'est ces accords d'échange internationaux. On peut produire autant qu'on veut et intensifier nos productions tant qu'on veut ici. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on perd toujours 30% de tout ce qui est produit dans les filières. On perd 30%. Je ne connais pas le bruit de cet engin. Oui, on est en double hélico, là, ça y est.
C'est la gendarmerie. Ouais, ouais. T'as vu, ils envoient des hélicos pour te faire perdre le fil de ton propos, quoi. Incroyable. Ils sont forts.
C'est, tu vois, ça fonctionne à merveille. Et c'est assez rigolo, la réaction de Bousquet Cassagne. Il a dit, ouais, nous, c'est Saint-Sauvant, on les ferme. Bon, alors demain, le lendemain, le port, mais alors rien à foutre. Hein, genre, vous pouvez y aller. Et ben, s'il poussait un petit peu plus loin, il viendrait même avec nous, quoi. Puisque c'est ce qui est en train de les faire crever. et qu'il en est conscient. Puisque même la coordination rurale dénonce les accords de libre-échange, et c'est ce qui est tout à fait paradoxal, ils ont cette position historique et ils soutiennent un parti qui est le RN, qui soutient les accords de libre-échange.
Le colonialisme, il existe aussi en France, en fait. Oui. Voilà, le système colonial, il est aussi subi par les populations françaises, oui, métropolitaines.
Oui, justement, c'est au contact des camarades, en vivant, en voyant ce qu'ils ont traversé, comment l'histoire est montée chez eux, comment ces conflits sont montés. Et quand ils voient un campement comme le nôtre survolé par un hélico, ben, ils nous expliquent bien que c'est le même chemin, la même histoire. Oui. La construction des méga-bassines partout en France, c'est un schéma d'aménagement défendu par le gouvernement Macron, défendu par tous les gouvernements compactisés avec la FNSEA et qui est imposé à des territoires comme le nôtre au prix des tensions que ça génère. Ce qui est quand même assez parlant, c'est qu'il y a quelques mois de ça, quand on était au convoi de l'eau et qu'on était à l'agence de l'eau, Boudeau, le président de la COP de l'eau, il était prêt à annoncer une espèce de moratoire ou dire « Ok, on fait une pause, c'est trop tendu ». Et c'est sous pression du ministre de l'Agriculture Fesneau qu'il a remis une pièce dans la machine. Et ce n'était pas la première fois. Même quand ils ont commencé Mosé, ils n'étaient pas prêts techniquement à commencer Mosé. Et parce que de Normandie venait au congrès de la FNSEA à Niort, ils leur ont dit « Il faut même symboliquement que ça commence à tout prix ». Et de plus en plus sont les irrigants. Hier, j'étais avec M. Charles, qui est un des premiers constructeurs de bassines sur les bassines de la Boutonne, il y a 15 ans, où on leur avait proposé un deal, on prend vos captages qui ne sont pas pollués, en échange, on vous donne les bassines. Et même lui le dit, et puis aujourd'hui, il a une bassine qui est pleine de cyanobactéries, et ça crée la tension. La flotte, elle coûte super cher à son fils, 5 fois le prix de ce que lui payait quand il prenait dans la nappe. Enfin, et du coup, ça rend l'entreprise, si ce n'est très fragile, au moins obligée de rentrer dans des logiques très, très productivistes. Donc pas du tout à sortir des logiques d'investissement et de corps de coût et qui sont à l'encontre du revenu agricole, quoi. Et il le dit, c'était pas leur projet.
Donc eux aussi se sont fait coloniser, en fait.
Ben oui, c'est ça. Ben oui, quand j'ai vu les images de Kanaki, je me suis dit, mais il y a combien des bourreaux de Sainte-Soline qui sont là-bas et ouais, c'est copier-coller, quoi. Sauf que là-bas, il y a eu 10 morts, et on en parle à peine. Il y en a au moins 3 qui ont été descendus par les forces de l'ordre. Et Darmanin, il est encore en poste. C'est quoi cette France de merde? C'est quoi ces médias? Enfin, moi, j'imagine les journalistes de France Région Nouvelle-Calédonie qui sont au cœur. Là, t'as les infos, quoi. Et que ça remonte pas au national. Putain!
Donc voilà pourquoi la Palice, ce port négrier à côté de La Rochelle.
Blocage symbolique ce samedi. Et pour les camarades qui entendraient, en fait, il y a une bonne nouvelle. Bah ouais, parce que le but était d'impacter l'activité du port. Le simple fait d'avoir annoncé, il n'avait pas du tout vu venir, ça aussi c'est rassurant, malgré tous les renseignements dont on fait l'objet, etc., la surveillance, ben, ça il n'avait pas vu venir, et ça a été le branle-bas de combat. On a des retours, notamment de camarades qui bossent au port, et qui nous disent, mais si vous saviez la panique, ils sont en train de restructurer le port, etc., et ça atteint déjà le fonctionnement, et on est déjà en train d'en parler. Et nous, en fait, c'est ce à quoi on aspire principalement, qu'il y a un maximum de Français, de Françaises et de citoyennes, de citoyens qui se posent la question de qu'est-ce qui se passe dans ces ports? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui en part?
Ces questions, on les reposera bientôt. Et ces manifs, on vous les racontera dans de prochains épisodes de cette série Village de l'eau, à podcaster sur notre site polymix-et-la-voix-off.com. Avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. No basaran.